Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. C'est le premier numéro en ce début d'année 2024, l'occasion de vous adresser nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. En 2023, le Maroc a poursuivi sa dynamique de consolidation de ses relations économiques avec le reste du continent. Comment s'annonce l'année 2024? Nous en parlons avec Samir Chaouki. Il est le président du think tank Omega, un centre de recherche géopolitique et économique. Vous l'entendrez dans quelques instants. Comment le secteur de l'artisanat peut-il favoriser la montée en gamme des produits traditionnels africains? Quel partage d'expertise et de savoir-faire sont possibles entre le Maroc et les pays du continent? Nous irons au Burkina Faso pour faire le point avec les professionnels burkinabés. Tels sont les principaux sujets de coémergence. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais à l'instant, en 2023, le Maroc a poursuivi sa dynamique de consolidation de ses relations économiques avec le reste du continent. Comment s'annonce l'année 2024? Nous en parlons avec Samir Chaouki, il est le président du think tank Omega, un centre de recherche géopolitique et économique. Samir Chaouki est également auteur du livre « Mohamed VI, un roi africain ». Un ouvrage qui revient sur la politique africaine du Maroc au cours de ces deux dernières décennies. Bonjour à vous, Samir Chaouki, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et mes voeux de bonheur, de santé à vous et à tous vos auditeurs de Midi 1 Radio.
Alors, on commence d'abord. Si on avait à faire un petit bilan, très rapide, hein, un bilan express, si j'ose dire, comme nous sommes dans le Zoom Express, que retenir, oui, selon vous, de l'année 2023 dans les relations économiques entre le Maroc et le continent, assez rapidement?
En une phrase, décision de consolidation de ces relations, comme l'atteste le dernier discours du roi Mohamed VI quant à la face atlantique du Maroc et le souhait d'en faire un grand marché panafricain.
Donc, ce discours a notamment, en tout cas, campé le décor pour ce qui devrait se passer dans les années à venir, notamment avec cette réunion qu'on a vue à Marrakech avec les ministres des Affaires étrangères des pays du Sahel, donc le Tchad, le Burkina, le Niger ou encore le Mali. Alors, justement, selon vous, comment ces relations devraient évoluer pour cette année 2024?
Dans la continuité, le Maroc l'a fait depuis des années, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Et en 2023, le Maroc a continué à tendre sa main vers son continent, que ce soit sur sa région ouest, traditionnellement amie, alliée au Maroc, et dans les autres régions, que ce soit dans l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Est. Le Maroc ne lésine pas sur les moyens pour former un marché panafricain digne de ce nom, que ce soit sur le plan purement économique et commercial, mais aussi sur les plans de géopolitique en matière de sécurité et de paix, comme nous l'avons constaté dans sa dernière rencontre à Marrakech avec les pays du Sahel. Rencontre pendant laquelle le Maroc a exprimé tout son soutien à six pays afin d'acquérir leur souveraineté, leur pleine souveraineté, mais surtout de jouir d'une paix et d'une sécurité. Et le Maroc a même proposé ses services dans ce sens, sachant que le Maroc est l'un des piliers africains en matière des contingents de paix et de sécurité un peu partout dans l'Afrique.
Je pense que là, vous avez touché le volet géostratégique. Alors, s'agissant justement des relations économiques de façon globale, on a dit que l'année 2023 était celle de la consolidation ou poursuite de la consolidation. Pour 2024, qu'est-ce que cela devrait être?
Pour 2024, ça devrait commencer l'émergence de la concrétisation de certains méga-projets, comme celui des gazoducs avec le Nigeria. Nous savons que les études sont assez avancées et que même le volet financier est en quête d'être monté. Et je pense qu'en cette année 2024, on y verra plus clair et on avancera dans ce dossier, un dossier qui va un peu révolutionner la côte ouest africaine, puisque ça bénéficiera à une quinzaine de pays. Et je pense que le Maroc est dans une très bonne dynamique, comme d'ailleurs l'a exprimé dernièrement le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, qui a confirmé que les deux pays avancent main dans la main sur ce projet, je dirais, panafricain et non pas seulement maroco-nigérian. C'est un modèle dans le continent. Le Maroc n'oublie pas les autres régions, puisque même dans l'Éthiopie, je pense après le passage de cette période de COVID-19 qui a retardé un peu plusieurs projets marocains dans le continent, y compris ce méga usine en Éthiopie pour la production des engrais. Je pense qu'en 2024, les choses vont s'accélérer afin d'aboutir à ce projet ô combien important pour l'Afrique de l'Est en matière de l'agriculture et surtout en matière de sécurité alimentaire.
Une sécurité alimentaire, justement, surtout cette région qui a fait face à des sécheresses assez importantes ces dernières années. Alors, si on entre toujours dans les différents volets économiques, il y a les volets sectoriels. On sait qu'il y a des secteurs qui ont acquis leur maturité désormais sur le continent. On pense au secteur bancaire, à l'immobilier, on pense aussi au BTP, entre autres. Selon vous, quels nouveaux secteurs faudrait-il encourager, sur lesquels il faudrait mettre le cap désormais dans ces relations d'investissement et des relations économiques entre le Maroc et ses partenaires du continent?
Moi, je pense qu'il va falloir se pencher sérieusement sur les secteurs touristiques. L'Afrique, c'est un gros marché touristique, mais qui n'est pas développé en interne. Quand je dis en interne, c'est un marché panafricain. Aujourd'hui, c'est un marché panafricain de plus d'un milliard d'habitants. Au moins, il y en a 200 millions potentiellement en possibilité de s'ériger en statut de touriste. Mais il n'y a pas une véritable politique interne des pays africains afin d'émerger ce tourisme interne à l'Afrique entre pays africains. Tous les pays africains regardent vers le nord, c'est-à-dire essayent d'attirer les touristes nordiques, notamment de l'Europe. Non, mais je vois que des pays, par exemple le Maroc, peut à ce niveau être une locomotive, puisque le Maroc est un gros pays touristique et qui a les infrastructures nécessaires pour cela, mais qui devrait développer une offre spécialement dédiée à l'Afrique, comme nous au Maroc en interne, on dit qu'il faut développer une offre interne au marché marocain, il faut développer une autre offre dédié au marché africain, parce qu'il y a un potentiel énorme qui est aujourd'hui ressenti par notre compagnie nationale Royal Air Maroc, qui développe une véritable dynamique dans le continent, et cette dynamique se répercute de façon très positive sur son chiffre d'affaires, de la même façon que la part de produits nets bancaires de l'Afrique sur nos grandes banques marocaines qui sont installées en Afrique. Je pense qu'il est temps pour nos opérateurs touristiques de penser à l'Afrique, mais aussi aux autres pays africains, de développer leurs propres offres touristiques qui est destinée à leur voisinage. Je vois par exemple dans l'Afrique de l'Est, il y a de très beaux pays touristiques. Si on voit dans l'océan Indien, par exemple, l'île Maurice, le Seychelles, la Tanzanie, le Madagascar, qui ont un potentiel touristique énorme, mais qui est résolument tourné vers le nord et qui ne développe pas une offre régionale pour les pays limitrophes. Je pense que chaque pays peut avoir au moins une dizaine de pays africains qui peuvent s'ériger
Destination touristique.
en client, et qu'il va falloir se pencher sur ça. De la même façon, je dirais la même chose sur l'artisanat, qui est aussi tourné vers le nord, mais qu'on sait que chaque pays a ses propres spécificités, et à chaque pays a aussi ses origines, son histoire, sa culture avec l'artisanat, et il va falloir la présenter au sein du continent pour faire et pour émerger un artisanat purement panafricain.
Africain. En tout cas, vous me faites une très belle transition parce que justement, après vous, notre invité va parler de ce secteur de l'artisanat. En tout cas, merci à vous, Samir Chaouki. Je rappelle que vous êtes le président du think tank Omega, un centre de recherche géopolitique et économique. Vous avez aussi publié l'ouvrage, on se rappelle, donc un livre sur les 2 décennies de politique africaine du Maroc, intitulé Mohamed VI, un roi africain. Merci à vous pour tous ces éclairages.
Merci à vous.
Coémergence, l'invité.
Il s'appelle Bangré Norbert, il est promoteur de l'activité du secteur informel en Afrique de l'Ouest et il dirige également une entreprise dans le secteur du cuir au Burkina Faso. Avec lui, nous allons justement parler d'artisanat et du secteur du cuir en Afrique, comment évolue-t-il et quelles sont les possibilités de partage d'expériences possibles entre pays africains. Bonjour à vous, Bangré Norbert, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous.
Bangré Norbert, tout d'abord, parlez-nous du secteur du cuir et de l'artisanat en Afrique de l'Ouest.
Alors, avant tout propos, je me présente officiellement. Je suis Bangré Norbert à l'état civil. Alors, je suis le premier entrepreneur promotionnaire du cuir au Burkina Faso en Afrique de l'Ouest francophone. Et bien évidemment aussi, je suis aussi formateur, coach motivateur en développement personnel. Je détiens un projet qu'on appelle 1000 femmes, 1000 emplois, 1000 SCCM dans le cadre du développement endogène de la femme et l'ODD. Et bien évidemment, à l'université, je suis aussi le coach motivateur qui met en place un programme qui s'appelle Un étudiant, une entreprise, 1000 étudiants, 10 000 emplois. Tout ça rentre dans le développement industriel du cuir. Parce que le cuir est une matière durable et le cuir est une matière internationale qui se commercialise partout. Donc, j'aimerais vraiment vous dire merci et vous dire que le Burkina Faso est un carrefour incontournable de l'Afrique de l'Ouest. Donc, vraiment, nous avons beaucoup de potentiel à développer. Rien que notre place peut vraiment servir avoir des industries haut de gamme dans le domaine du cuir pour pouvoir desservir les autres pays frontaliers avec le Burkina Faso. Raison pour laquelle un partenariat gagnant-gagnant a été noué entre vraiment notre institution, notre État plutôt, l'État du Burkina Faso, avec Codepa, bien évidemment en collaboration avec le Royaume du Maroc, le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire du Maroc, dont nous sommes venus vraiment faire un travail dans le renforcement des capacités afin de pouvoir développer nos compétences Afrique de l'Ouest.
Alors, vous parlez de ce partenariat et de ce renforcement des capacités et des compétences que vous avez eu à bénéficier ici au Maroc. Alors, de façon plus concrète, de quoi s'agit-il?
Merci beaucoup pour la question. Il faudrait d'abord que je commence à vous dire que vraiment, il y a une organisation qui s'appelle Codepa. Codepa a œuvré. Codepa, ça veut dire le comité de coopération et de développement des artisans africains, qui travaille en droit avec des institutions, avec plusieurs pays, 14 pays africains, qui sont membres de Codepa, qui ont éventuellement noué vraiment un partenariat avec la Chambre des métiers de Rabat Salé, afin de pouvoir donner une opportunité première, ouvrir en Afrique et bien d'autres pays. Je pense qu'à cette opportunité, nous étions autour de 6 pays. Il y avait le Burkina Faso, le Tchad, le Gabon, le Mali, le Niger et le Togo. qui se sont représentés afin de pouvoir faire ces échanges de partenariats et de partage d'expériences. Voilà pourquoi nous sommes venus éventuellement, typiquement dans l'industrie du cuir et aussi dans la maroquinerie haut de gamme pour le Maroc, des échanges de partage et de partenariats et gagnant-gagnant, bien évidemment.
Alors, on sait que le packaging, le marketing, l'emballage sont des choses qui permettent à l'industrie traditionnel d'être mieux vendu à travers le monde, ce qui est réussi quand même au Maroc. Sur la base de cette expérience-là, en quoi des efforts vont être faits dans ce domaine-là précis ou sur ce plan de l'emballage et du marketing?
Bien évidemment. Alors, tenez-vous bien que le Maroc est un pays vraiment très référentiel sur le plan vraiment du développement industriel du cuir. D'où vient vraiment, quand on parle de maroquinerie, ça vient du Maroc. Vous êtes sans ignorer. Et maintenant, nous sommes venus vraiment pour voir comment, comme le Maroc est tellement développé dans l'industrie du cuir, dans l'emballage, dans la finition, dans toutes les manières, comment faire pour vraiment nouer des partenariats sud-sud, afin que vraiment les pays subsahariens comme les nôtres puissent maintenant bénéficier de l'expertise venant du Maroc au Burkina. Ça veut dire, moi j'ai dit ça lorsque j'étais vraiment à la rencontre, il y a un programme qu'on a lancé, vous savez bien que le Maroc a lancé un programme 100 000 entrepreneurs avec vraiment le ministre de l'Industrie, du Développement des Petites et Moyennes Entreprises marocaines, avec vraiment le ministre de l'Enseignement supérieur, avec plusieurs investisseurs éventuellement. J'étais à l'occasion de ce lancement, à l'occasion de cette rencontre, et j'ai eu l'opportunité d'accoster le ministre. Et j'ai dit à monsieur le ministre de l'Industrie du Maroc, j'ai dit, monsieur le ministre, le Burkina est un pays qui est au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons profiter vraiment de ces opportunités et nous voulons faire une déportation d'une petite Maroc au Burkina. Donc pourquoi ne pas vraiment mettre des industries de développement pour pouvoir former, n'est-ce pas, le Burkinabé et former les pays alentours, nettement la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana, le Togo, qui sont des pays frontaliers, pour qu'ils aient vraiment le second Maroc au Burkina pour pouvoir répondre éventuellement aux normes internationales dans les, en matière de finition et de la haute gamme du cuir. Donc alors, voilà un peu la vision.
Alors, qu'en est-il de l'exportation de cet artisanat africain, du cuir africain par exemple?
De l'exportation d'un pays à un autre, ça veut dire déporter du Maroc vers le Burkina.
Je veux dire, non seulement entre pays africains, mais aussi en dehors du continent.
En dehors du continent. Mais cela veut dire que vous saviez bien, c'est la finition qui fait les choses. Ah oui, pour pouvoir faire une bonne exploitation pour répondre aux normes internationales, c'est la finition et la qualité du cuir. Parce que dans le secteur du cuir, les vrais acteurs du cuir, notamment qui se trouvent en Italie, en France, que j'ai visité avec vraiment les vrais maîtres, les vrais ingénieurs du cuir, c'est la finition, la qualité du cuir et la finition éventuelle de la matière. Donc pour l'exportation, cela est bien entendu sur tous les plans. Et n'oubliez pas que le Maroc peut commercialiser partout. Nous, au Burkina, nous ne sommes pas vraiment à ce niveau parce qu'il nous manque plein de choses. Il nous manque des machines de finition, il nous manque vraiment les techniciens, tout même vraiment de la tannerie industrielle du cuir. Donc, il y a plein de choses. C'est pourquoi nous avons vraiment voulu nouer des relations gagnant-gagnant avec le Maroc afin que vraiment cette expertise puisse être apportée au Burkina pour pouvoir conquérir le marché. C'est pourquoi nous sommes venus. Voilà.
Alors, une dernière question. Quelles sont les tendances de l'art du cuir, par exemple, en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Burkina Faso?
Les tendances sont énormes. Pour vous dire que vraiment, actuellement, premièrement, le Burkina est un pays d'élevage. Ça veut dire que nous disposons de nos propres cuirs. On a le cuir qui sont là, qui se pourrissent même d'ailleurs. Alors, et vous voyez aujourd'hui, notre gouvernement, notre président Ibrahim Traoré et son premier ministre Apollinaire Joachim a essayé de mettre, Kelem a mis en place un programme qu'on dit consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. Cela rentre en droit de vie dans plusieurs acteurs de développement industriel, notamment dans la tisserie des pains tissés, mettre en Burkina Faso, dans le développement industriel du cuir. Parce qu'il a dit, les autorités premières ont dit, il faut impérativement que nos FDS et nos polices, toute l'armée, d'associer avec les chaussures du Burkina Faso, les cuirs faits au Burkina. Donc vous voyez un peu, et dans ce contexte aussi, nous pouvons éventuellement regarder les pays côtiers qui n'ont pas d'élevage, mais qui en ont besoin pour pouvoir desservir éventuellement. C'est pourquoi nous voulons que le Burkina Faso soit vraiment le petit Maroc déporté au Burkina. Donc les tendances sont énormes et le marché y est, nous n'avons même pas peur. Et si toutefois vraiment le Maroc s'ouvre à nous, nous les recevons vraiment à cœur ouvert afin que vraiment ça soit un partenaire gagnant-gagnant.
Merci à vous, Bangré Norbert. Je rappelle que vous êtes promoteur de l'activité du secteur informel en Afrique de l'Ouest et vous dirigez également une entreprise dans le secteur du cuir au Burkina Faso. Vous aviez, à l'instar de plusieurs ressortissants d'autres pays du continent, bénéficié d'une session de renforcement des capacités au Maroc dans le secteur de l'artisanat. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci beaucoup. Et très prochainement, nous sommes disponibles pour toute éventualité.
Merci.
Merci, merci, merci à vous.
Destination Éco.
L'Angola, c'est une économie d'Afrique centrale, très riche en ressources énergétiques, mais qui offre également des opportunités d'investissement dans de nombreux secteurs. Comment encourager les relations commerciales et favoriser les investissements entre le Maroc et l'Angola? Nous aurons donc la réponse avec Marco Yava Dalla. Bonjour à vous, Marco Yava Dalla.
Oui, bonjour, bonjour, monsieur Omar, bonjour.
Quels sont les secteurs porteurs de l'économie angolaise?
Merci beaucoup. Alors, les secteurs porteurs, je vais commencer par l'agriculture. L'agriculture est le secteur principal en termes d'investissement au pays, mais nous avons aussi ensuite l'industrie transformatrice. On peut aussi considérer, je vais dire, l'agronégoce. Voilà, donc sont les principaux, mais nous avons également voilà, les secteurs du tourisme, l'hôtellerie, mais aussi voilà, la construction ou même les transports. Voilà, ce sont les principaux voilà, secteurs porteurs d'investissement en Angola, mais en premier lieu, nous avons l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Comme je disais tantôt, c'est un pays qui voilà, est en train de pouvoir diversifier son économie, dont le focus est beaucoup tourné vers l'agriculture pour pouvoir transformer beaucoup plus au niveau local, au niveau local et en quelque sorte pour pouvoir aussi diminuer voilà, les importations. Voilà, ceci veut dire que les pays misent beaucoup plus au niveau de l'agriculture et en conséquence attirent aussi beaucoup plus les investisseurs privés, intéressés notamment à pouvoir investir dans ces secteurs. Les investisseurs privés peuvent être des nationaux, mais également des étrangers. Voilà, sont les, voilà.
Alors, en dehors de l'agriculture, quel autre secteur est porteur en Angola?
Alors, je vais dire, comme nous connaissons tous, le premier secteur, je voulais dire, c'est le secteur pétrolier. D'accord? Ça, c'est le premier, je ne l'ai pas cité. C'est le secteur où, je vais dire, environ 80% de l'économie du pays est issu de ce secteur. Mais à part l'agriculture, on peut aussi considérer, voilà, aujourd'hui, on peut parler aussi du secteur du tourisme. C'est bien évidemment que les chiffres ne sont pas assez élevés, mais c'est aussi un secteur porteur. Voilà. Mais nous avons également le secteur du transport. Oui, le transport aussi. Nous avons aussi le secteur du transport. C'est un secteur qui ne cesse pas, en fait, de grandir.
Excellent. Je pense que c'est des indicateurs importants pour les investisseurs. Justement, Marco Yava Dalla, oui. Les investisseurs, est-ce qu'aujourd'hui il y a un intérêt que vous sentez hein, auprès des investisseurs angolais intéressés par le marché marocain ou bien dans le sens inverse, des investisseurs marocains intéressés par le marché angolais? Quelle est la situation?
Alors, merci beaucoup pour cette question. Je voulais dire, en fait, il y a vraiment un intérêt d'investissement dans les deux sens, même si cela n'est pas encore chiffré, je ne pourrais pas parler avec assez de précision, mais je voulais dire déjà, le Maroc, c'est un pays en termes d'économie ou même d'expertise, avance d'année en année, et du coup, ça permet en quelque sorte les entrepreneurs marocains ou même les entreprises de pouvoir investir dans les autres pays, voilà, notamment les pays d'Afrique. Et il y a vraiment aussi des investisseurs ou des entreprises marocaines qui sont intéressés à pouvoir investir au pays, mais aussi, il y a un autre, je vais dire, un autre point que je trouve aussi essentiel, c'est beaucoup plus l'échange d'expertise, c'est-à-dire l'expérience marocaine dans les divers secteurs, surtout l'agriculture et autres aussi, ont cette volonté de pouvoir partager avec les autres pays. Mais dans le sens inverse aussi, il y a aussi une volonté de certains investisseurs ou entreprises qui ont cette curiosité de pouvoir aussi connaître davantage les secteurs ou l'économie marocaine. Voilà ce que je peux dire, mais de manière générale, je pense qu'avec un regard commercial, je peux dire que la tendance est beaucoup plus, en fait, dans les deux sens, avoir un certain intérêt d'investissement, pour le Maroc ou même pour l'Angola.
Marco Yawa Dalla, je rappelle que vous êtes donc entrepreneur angolais. Vous nous présentiez l'économie angolaise, les opportunités d'investissement et les secteurs porteurs et surtout comment encourager les investissements entre les deux pays, le Maroc et l'Angola et avec le reste de l'Afrique, bien évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, monsieur Oumar.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur nos plateformes Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.